Talmudique. Chers amis auditeurs, bonjour, c'est un très grand plaisir de vous retrouver après cette longue période pendant laquelle nous vous avons proposé des émissions en réécoute. Il existe une tradition qui enseigne que lorsque l'on rencontre un ami que l'on n'a pas vu depuis 30 jours, on récite une bénédiction qui dit la joie de ses retrouvailles. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechiyanu vekiyemanu vehegiyanu lazmanazeh. Tu es source de bénédiction, Maître du monde, qui nous a fait vivre et qui nous a maintenus en vie et qui nous a permis d'atteindre ce moment-là. Bénédiction forte qui dit beaucoup de l'amitié, mais aussi de la relation qui existe entre la vie et l'amitié, c'est-à-dire l'importance des relations entre les êtres humains pour donner sens à la vie. Le mot « ami », « chaver », en hébreu, signifie d'ailleurs le lien, le fait de mettre ensemble des personnes mais aussi des idées. En témoigne le mot « chibour » qui signifie à la fois le lien et le traité de philosophie ou tout ouvrage qui propose une réflexion articulée, l'intelligence d'un propos qui pose le sens des choses et du monde. L'ami, chaver, un mot dont l'un des anagrammes est riche d'enseignements, car il signifie le choix, le fait de choisir, bachar. Amitié, vie, choix et temps, quatre mots qui rencontrent à leur façon notre époque et la situation dans laquelle nous nous trouvons plongés maintenant depuis 6 mois, depuis le début de ce qui s'est révélé être une pandémie qui a littéralement bouleversé notre monde dans son ensemble. Époque qui, plus qu'aucune autre, en dehors des guerres et des attentats, nous a placés collectivement devant la question de la maladie et de la bonne santé, du soin et de la guérison, et de manière essentielle devant les questions des relations sociales, de nos choix d'existence, de la proximité et de la distance, de l'amitié précisément, de la responsabilité de nos gestes, de nos choix éthiques et de façon radicale devant la question de la vie et de la mort. Et dès lors, comment ne pas penser à ce verset 19 du chapitre 30 du Deutéronome ? « Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre, que je vous ai proposé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Les commentaires nombreux s'interrogent sur le sens de ce verset. Pourquoi énoncer ce qui semble une évidence ? Que signifie choisir ? Pourquoi parler de la vie et de vivre ? Qu'est-ce que vivre ? Pourquoi ajouter « toi et ta descendance » Les mots « afin que tu vives » n'auraient-ils pas suffi à la compréhension de cette injonction? Voilà des questions qui se posent aux philosophes, aux médecins et à tout le corps médical et de la santé, aux enseignants, aux politiques et à tout un chacun, car cela nous concerne tous. Pour en parler aujourd'hui, nous avons choisi quelqu'un qui est à la fois philosophe, médecin et enseignant, homme du texte, de l'écoute et de l'interprétation, et particulièrement attentif à l'étude, au partage intellectuel, à l'interdisciplinarité des savoirs et à la transmission. Michel Gade-Volkovitch, bonjour.
Bonjour Marc Alain.
Michel Gade-Volkovitch, vous êtes psychiatre et psychanalyste, professeur de psychopathologie fondamentale et de psychiatrie à Paris 11 et vous enseignez dans plusieurs universités à l'étranger. Vous êtes fondateur et directeur d'un institut de recherche interdisciplinaire et d'une collection d'ouvrages qui permettent d'en faire connaître les travaux, institut et collection qui porte le nom de Shibboleth avec le sous-titre « Actualité de Freud ». Pourquoi avoir choisi ce nom, à la fois étrange et familier ? Que signifie-t-il exactement et quelle relation a-t-il avec Freud, Micha Volkovitz ?
J'ai choisi avec mes cofondateurs de Shibboleth ce terme, de Shibboleth, parce qu'il me paraissait représenter le travail de culture proposé par Freud, le fameux Kulturarbeit, un peu dans la suite de la première revue freudienne, la revue Imago, où tous les mercredis soirs, il y avait cette fameuse réunion qui invitait des psychanalystes, des anthropologues, des artistes, des écrivains pour aborder certains points de l'actualité, certains points de la pensée. On a éprouvé le besoin de reprendre ce travail de culture. Et Shibboleth, par ce mot qui est à la fois intraduisible et qui est en même temps une référence justement du passage de la pensée, de la circulation des signifiants, mais en même temps de l'arrimage solide à certains marqueurs civilisationnels sur quoi on ne cède pas, m'a paru particulièrement inspirant. Alors, quand je dis inspirant, c'est quoi ? Je me suis inspiré de la Bible, du passage dans le livre des juges. Ce qui m'a retenu dans cette référence, c'est au fond le recours à l'idée d'une responsabilité généalogique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser que les enfants sont responsables de ce qu'ont fait les parents, mais ils ont à assumer une histoire, ils ont à ne pas la réviser, à ne pas la changer, à ne pas la modifier, ne pas faire une sorte de réparation narcissique comme ça groupale dans une psychologie de foule. Ils ont au contraire à en tirer des leçons et à la transformer, cette histoire, à la faire évoluer vers quelque chose qu'ils auront choisi et on peut l'espérer de façon plus éthique par rapport à eux et par rapport aux autres. Donc c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective. La deuxième référence, c'est Freud, vous l'avez dit. Freud parlait de ses shibboleths, hein, de ses shibboleths à lui. Ses shibboleths, c'était des concepts sur lesquels il ne transigeait pas. L'inconscient, la sexualité infantile, le paradigme du rêve et son interprétation, et la résistance. Ce terme, on l'oublie souvent, la résistance. C'est très important parce que la résistance, c'est ce qui produit le conflit psychique. Et dans le « tu choisiras la vie », la vie, c'est le choix, mais dans le choix, c'est le conflit psychique. C'est ça qui marque l'ouverture au transfert, l'ouverture au champ de la métaphore, l'ouverture à l'indéfini de la pensée, l'ouverture à quelque chose d'une création qui est permis justement par la contrainte, qui est permis par les limites, qui est compris par la loi. Et puis la troisième référence, c'est celle à Paul Celan, et donc à Derrida, qui interprète le poème ou les poèmes de Paul Celan. Et là aussi, ce qui m'a intéressé, c'est au fond l'adresse, donc le transfert aussi, c'est-à-dire ce qui est adressé par Paul Celan à Heidegger, hein, c'est-à-dire à une parole fermée, à une parole fermée, à une parole close, à une parole qui est très actuelle, malheureusement. Hein.
Dans la forêt noire.
Ce fameux entretien dans la montagne.
Entretien dans la montagne, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais apparemment, ils se sont rien dit, je crois.
Paul Celan a essayé de poser des questions, Heidegger n'a rien dit, en restant, on pourrait l'imaginer, enfin, on le voit à travers son écriture et sa posture, en restant à une sorte de parole hygiéniste et opératoire, une sorte d'idolâtrie de la nature, du naturliche, hein, qui n'est pas sans évoquer aujourd'hui des questions sur l'écologie en tant qu'idéologie, sur l'écologie en tant qu'idéologie, non pas en tant que préoccupation, ce qui est différent. Et là, on en revient aussi à « Tu choisiras la vie » et au travail de culture de Freud quand il initie, on pourrait dire, il inaugure le travail de culture. Et là, on en revient au mot « shibboleth » qui, en hébreu, veut dire épi de blé, mais évidemment qu'il transcende, il transfigure cette, il est intraduisible. C'est en ça que shibboleth est intéressant. Il est intraduisible, mais en même temps, c'est quand même ça. Les Israéliens me demandent souvent, pourquoi t'as choisi épi de blé? C'est quoi ce nom? Pour eux, c'est tellement ordinaire. Ben, justement, c'est comme l'art d'Alain Kleinman, à partir de choses très, des objets quotidiens, usuels, etc., ben, il y a quelque chose qui se transfigure et un travail de mémoire, de pensée, de culture, une sorte de production d'un présent réminiscent, d'un passé anachronique qui produit des choses chez nous. Eh ben, épi de blé, shibboleth, c'est le travail de culture de la terre. Hein, je crois que c'est important. D'un point de vue écologique, eh ben, vous savez effectivement qu'il y a toute une loi autour de cette terre. Elle est promise, mais elle doit être méritée. Hein, on doit la travailler d'une certaine façon, on doit la laisser se reposer. Enfin, il y a un respect de ça. Et puis évidemment, le travail de culture spirituelle, intellectuelle, ce travail de culture, au fond, il nous engage à une éthique de vérité psychique, scientifique, historique, et aussi une exigence, une éthique d'exigence intellectuelle et spirituelle, qui engage, au fond, une ambivalence, et là, on rejoint la question de la transmission, plutôt qu'une solution de l'absolution qui, effectivement, efface toute la conflictualité psychique.
Dans ce poème de Paul Celan, qui a été abondamment commenté par Jacques Derrida, le mot shibboleth apparaît, écrivez-vous, comme un cri du cœur, cri de guerre, de rage, de résistance. Mm-hmm. Shibboleth pourrait-il être un mot qui a particulièrement sa place dans notre actualité et cette époque de pandémie? Ce à quoi nous invite peut-être l'expression « no pasaran », expression espagnole citée à la fin du poème de Celan, qui signifie « ils ne passeront pas », non seulement le virus, mais tous les dérèglements sociaux, fake news, irrationalité en tout genre, comportements inappropriés et irresponsables qui font florès en cette période, exercice du choix de la vie, exercice de crible qui laisse ou non passer, mais qui n'a qu'un souci, le chemin de la vie, ce que souligne le sens amphibologique du verbe passer, tel qu'on le trouve dans Matthieu, dans le chapitre 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas », que l'espagnol traduit très précisément « El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ». Misha Volkovits. Excusez-moi pour l'accent espagnol, mais ce n'est pas ma langue maternelle.
Le fascisme ne passera pas, c'est ce qu'on pourrait reprendre de ce poème de Celan, au fond, dans le contexte. Pour revenir à la question justement de la transmission, et je vais répondre à votre question comme ça, il y a deux phrases qui me sont chères et qui sont sur la quatrième de couverture du livre. La première phrase, c'est celle de Freud. « Ce dont tu hérites de tes pères, acquiers-le pour mieux le posséder. Ce que tu laisseras de côté sera d'un poids lourd. » Cette dernière partie de la phrase, on l'oublie souvent, alors qu'elle est évidemment capitale. Parce qu'on doit se coltiner, justement, ce dont tu hérites, ce dont on hérite. Et c'est ça qui nous fait travailler. Et dans le mot, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, tu choisiras la vie, il y a ce paradoxe. On est né dans un milieu, on est né dans un langage, on est né avec des idéologies familiales, groupales, tout ce qu'on veut. On est né avec un sexe, on est né avec tout ça. Et au fond, qu'est-ce qu'on en fait, hein ? On est né dans quelque chose de surdéterminé. Et comment on peut s'arracher à ça, hein ? Comment on peut s'extraire de ça et en faire quelque chose et le nourrir et s'en faire nourrir. Il y a cette autre phrase, puisque je parlais de deux phrases de Groucho Marx que j'adore et qui est d'une finesse extraordinaire. Pourquoi ferais-je quelque chose pour les générations suivantes? Qu'ont-elles fait pour moi? Et cette phrase dit la réciprocité de la transmission, la responsabilité réciproque des générations entre elles et l'ambivalence justement de la transmission et par rapport aux parents, par rapport aux enfants. Il y a ce mot hébreu libnot qu'on retrouve dans la Haggadah qui est construire et qui comprend le mot ben, fils. Tu construiras tes enfants, mais c'est aussi tu te construiras avec tes enfants, tu te construiras par tes enfants. Là, on retrouve le concept de liberté responsable dont parle Benno Gross, à savoir on est un élément, un maillon d'une chaîne entre des ascendants et des descendants, et on a cette responsabilité effectivement de faire quelque chose de ce dont on hérite pour permettre à nos enfants, à ceux qui nous suivent, d'en faire quelque chose à eux et qui mettent en pièce nos idées et qui nous dépassent pour continuer. C'est-à-dire d'accepter une transmission qui soit une transmission non narcissique, une transmission ouverte, une transmission tordue, d'angoisse, de rire, etc. Mais une transmission qui met en jeu, au fond, notre image de soi, notre identité, qui est une construction toujours en devenir et qui n'est pas fixe. Parce que sinon, on tombe, et là je rejoins peut-être plus concrètement votre question, on tombe dans quelque chose de clonique, de clanique, qui s'arrête, et on rejoint les idéologies, la bien-pensance, les idéologies totalitaires ou totalisantes qui font que rien ne doit changer, même sous le coup du nouveau. Hein, on fait comme si tout était nouveau, comme si tout était original, comme si etc. Mais en fait, on refait la même chose dans d'autres versions, et surtout, on est dans une parole close, dans une identité pleine où rien ne doit changer. Et c'est cette psychologie de foule que Freud interroge, et que Schibolet doit interroger constamment, comment amener un collectif, comment amener des gens à pouvoir penser singulièrement ensemble. Et Raphaël Drey nous donnait l'exemple. Moi, j'étais très ému une fois, il était interviewé par Antoine Mercier. Raphaël Drey, qui a écrit une trentaine de bouquins, etc., etc., qui avait une culture incroyable, cette façon d'intriquer, de faire résonner les disciplines avec une rigueur. Il n'en faisait pas ce que dénonçait Freud, une Weltanschauung, c'est-à-dire une sorte de conception du monde globalisante, synthétique, etc., avec tous ses savoirs. Au contraire, il enrichissait chaque discipline par une autre, et tout ça, encore une fois, avec une rigueur. Et au fond, à un moment, il sort un bouquin de Schibolet et il dit, voilà, on ne peut pas penser tout seul maintenant. Il y a tellement de connaissances à avoir, il y a tellement de connaissances qu'on doit échanger, il y a tellement de pensées qu'on doit se confronter entre nous, croiser les regards, croiser les paroles, qu'on doit travailler ensemble pour à la fois le collectif, mais aussi pour nous-mêmes, c'est-à-dire réétrangériser notre langage à travers les échanges avec les autres, à travers le travail de pensée avec les autres. There comes a time where we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. Do-do-do. This is a song of hope. Do-do-do-do. Do-do-do-do.
song of hope. If one could be for all and all could be for one, together we are better under the sun. Our own responsibility relies on our ability to save the beauty that we live in and the life that we were given.
Micha Volkovitch, je vous propose d'écouter maintenant les voix de Raphaël Dré et de Michael Bartzvi, et nous les commenterons par la suite.
Écoutez, cher Adisteg, vous me permettrez de commencer par quelques souvenirs d'enfance. J'ai l'âge qui m'autorise à en avoir. Et justement, à propos de l'Alliance israélite. Lorsque j'étais enfant, le jeudi et le dimanche étaient dévolus aux enseignements de Rabbi Daniel Renassia à l'Alliance. Et donc je passais de l'école Montesquieu d'abord, puis l'école Victor Hugo à l'Alliance de Rabbi Daniel Renassia. Et là, je recevais les rudiments de cette pensée juive que vous avez bien voulu évoquer. Mais non sans quelques indocilités qui vont nous faire rentrer dans le débat. Parce qu'entre la maison où nous habitions, rue Henri Martin, dans le quartier Saint-Jean, j'étais un des rares juifs habités dans ce quartier, et Henri Martin était un des historiens de la Révolution, et le Talmud Torah, hélas, il y avait une mare au tétard. Et donc avec mon cousin Alain, qui était mon camarade de Talmud Torah, nous faisions des haltes très prolongées dans ce lieu béréchitique, ce qui nous amenait à l'Alliance fort en retard. Et lorsque Rabbi Daniel, qui n'avait pas le courage de nous houspiller, nous demandait la raison de ce retard, nous lui disions, eh bien, nous étions en train d'étudier le livre de la Genèse. Une autre entrée qui est aussi émouvante, c'est avec Rabbi Daniel à l'Alliance, c'était lorsqu'il nous expliquait le Sinaï, l'origine de la loi juive et puis les lettres hébraïques. Or, mon père, de mémoire bénie, avait cru devoir m'acheter l'encyclopédie Larousse en 10 volumes, et j'avais découvert dans cette encyclopédie l'écriture sinaïtique. Et donc je ne voyais pas très bien le rapport entre ce que nous enseignait Rabbi Daniel Renassia et puis l'encyclopédie Larousse. Alors au mois d'août, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le mois d'août en Algérie, à Constantine, avec mon casque en liège et mon Marcel, je prenais cette encyclopédie, enfin un des volumes, j'avais 10 ans, et je la portais à Rabbi Daniel en lui disant « mais expliquez-moi cette contradiction ». Bien évidemment, je transpirais beaucoup, et lui aussi. Et il me disait, mais quand tu grandiras, tu comprendras.
Il y avait deux questions que j'ai posées à Pierre Boutan lorsque je l'ai connu, qui étaient d'abord s'il était encore antisémite, et il m'a dit, je me suis trompé, j'ai été élevé dans une famille antisémite, j'étais élève de Maurras, et donc il était resté monarchiste, il est resté monarchiste jusqu'à la fin de sa vie, royaliste d'ailleurs plus que monarchiste, et surtout il avait considéré que l'antisémitisme avait été sa plus grande erreur, et contrairement à d'autres philosophes qui n'ont pas reconnu leurs erreurs, lui il l'a fait publiquement, et notamment lors du jury de thèse de mon doctorat, il a, en larmes, dit « l'antisémitisme a été la grande erreur de ma vie et je passerai la fin de mes jours à réparer cette erreur ». Alors, ce qui est d'autant plus curieux dans la philosophie de Pierre Boutan, parce que tous ceux qui parlent de Pierre Boutan, en général, ne l'ont pas lu, c'est un grand philosophe, probablement un des grands philosophes du XXe siècle, dont la thèse principale, « Ontologie du secret », est un très très grand livre de philosophie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que toute sa philosophie est imprégnée de judaïsme. Et que c'était un très grand lecteur. Le premier cours de Pierre Boutan au lycée Turgot, c'était sur Martin Buber, sur Gog et Magog, sur les récits chassidiques. Son deuxième cours, c'était une interprétation du livre de Jonas. Donc toute sa philosophie était imprégnée de judaïsme. C'est un grand lecteur de la Bible. Et c'est quelqu'un qui a fait redécouvrir un des plus grands penseurs de ce qu'on appelle la période des Lumières, qui n'était pas antisémite, justement, qui était Giambattista Vico, pratiquement le seul philosophe des Lumières qui n'a pas été antisémite, contrairement à Voltaire ou d'autres.
Micha Volkovitch, nous venons d'entendre, accompagné par une chanson d'Avishai Cohen qui s'intitule « Hop Song », la voix de Raphaël Dré d'abord, puis de Michael Bartzvi, deux de vos amis et compagnons d'études, deux très grands intellectuels qui nous ont quittés récemment, et furent tous deux particulièrement soucieux des questions de transmission. Vous leur rendez hommage dans le dernier numéro de votre publication Chibolette, qui vient juste de sortir et qui porte le titre de « La transmission en question ». Transmission que vous entendez au cœur de la construction de chaque individu et de chaque société. Hommage qui dit aussi l'importance que vous accordez à la mémoire et à la gratitude, une vertu chère à Jean Kelevitch. Et j'aime à me souvenir que le mot « juif » en hébreu signifie de manière essentielle savoir dire merci, se montrer reconnaissant, une façon aussi d'articuler la parole et le temps. Micha Volkovits.
Oui, écoutez, c'est très émouvant pour moi d'entendre Raphaël et Michael, qui effectivement étaient des amis plus qu'intime. Raphaël que j'ai connu plus tard, puisqu'il est d'une autre génération, et Michael qui était mon copain d'enfance. Et mon copain d'enfance, de jeu, de combat aussi. Hein. La transmission, au fond, pour parler de Raphaël, par exemple, elle passe par le transfert. Vous parliez tout à l'heure de « et tu choisiras la vie ». Au fond, c'était une phrase, pour moi, assez plate, assez moralisatrice, quand je l'entendais. Et puis, évidemment, qu'elle a pris une toute autre résonance quand j'ai commencé à être proche de Raphaël, de l'entendre, de partager ses études et surtout de le voir. De voir comment, dans sa pensée et dans son action, il choisissait la vie, il était responsable de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait, il affrontait les adversaires en les respectant, mais il les affrontait, on l'a vu à la télé, dans des situations très, très violentes. Tous les deux étaient d'un courage intellectuel et d'un courage corporel, d'action, extraordinaire. Hein. Raphaël faisait de l'haltérophilie, tout le monde le sait, on aime bien ce mot dans l'haltérophilie qui altère l'autre. Ils étaient tous les deux à la fois soucieux d'une pensée, encore une fois, singulière, comme je le disais tout à l'heure, et de la pensée singulière de chacun, et en même temps du collectif, quoi, du peuple. Chacun ne s'incarnait pas dans le peuple, mais représentait le peuple. Et donc, la transmission, notamment, c'est ce que Freud dit et qui caractérise la transmission juive est peut-être un caractère juif, à l'origine d'une pensée juive, si on peut dire ça comme ça, dans sa diversité, sa pluralité. En tout cas, on peut l'espérer qu'elle reste comme ça. La transmission se fait par identification particulière, dit Freud, qui est une identification par intériorisation, c'est-à-dire l'intériorisation d'un grand homme sous la forme d'une grande idée et qui est fondatrice justement d'une pensée indéfinie, d'une pensée conflictualisable, donc d'une filiation conflictualisable qui l'oppose à quelque chose qui serait d'un retour au polythéisme, qui l'oppose à l'identification par incorporation. Et on le voit effectivement au niveau d'un peuple. Un peuple n'existe que s'il se réinvente, que s'il est capable de s'inventer, contrairement à ce que dit Shlomo Sand, quel lapsus affreux. Shlomo Sand qui dit que le peuple juif est inventé, ben justement, le peuple juif existe dans sa consistance, dans sa persistance, dans sa substance et sa persistance, justement parce qu'il a été capable de se réinventer par sa pluralité de pensée. Et il existe en tant que peuple justement parce qu'il est capable de se réinventer.
Alors je repense au verset que j'ai cité en ouverture, « Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance », que Rabbi Ishmael commente ainsi dans le Talmud de Jérusalem, « Choisir la vie, c'est apprendre un métier ». D'où l'obligation pour les parents d'enseigner un métier à leurs enfants, c'est-à-dire de leur transmettre un savoir, un savoir-faire et un savoir-être, comme l'on dit aujourd'hui. Et Rabbi Ishmael demande « Pourquoi est-il précisé toi et ta descendance ? Dans le cas, dit-il, où tes parents ne t'ont rien transmis, tu as l'obligation de te former toi-même. » Rabbi Akiva commentait encore autrement la fin de ce verset « Afin que tu vives toi et ta descendance » signifie qu'en plus du métier, les parents ont l'obligation d'apprendre à nager à leurs enfants. Et si les parents n'ont pu le faire, tu as l'obligation de le faire par toi-même, afin que tu vives, toi et ta descendance. Ce que Rashi commande, choisir la vie, c'est ainsi prévoir des situations périlleuses, dangereuses comme le naufrage, et apprendre à se tirer d'affaire. Ma question est, en tant que psychiatre et psychanalyste, face à la situation actuelle, quelle est pour vous la situation critique qu'il faut prévoir, anticiper et prévenir? Et que faudrait-il alors transmettre à nos enfants et à nos élèves, ou que nous devrions apprendre par nous-mêmes pour pouvoir nous y confronter, et que nous puissions continuer à vivre, nous et notre descendance, Micha Volkovits?
Écoutez, j'ai envie de répondre, il faut continuer à rêver et à encourager nos enfants à rêver, à imaginer. On est dans une époque de crise des représentations, et donc je crois que les parents ont à rêver pour leurs enfants, pour eux et pour leurs enfants. Et à propos de métier, moi je dis souvent quand je vois des parents, au fond, n'hésitez pas, parce que vous savez, on est dans l'idéologie du neutre et du genre, vous savez bien. Et ça fait longtemps qu'on entend des parents, que j'entends des parents, parents dire, mais moi je dis pas à mes enfants ce qu'ils doivent devenir, y compris la religion, y compris leur identité. Ils choisiront. À 20 ans, ils choisiront ce qu'ils veulent être, juif, chrétien, athée, rien du tout, etc. Quel métier ils choisiront. Bon. Et moi, je leur dis, mais écoutez, les enfants, ils se construisent avec nous, mais aussi contre nous. Et il faut accepter ça, que vos enfants vous rentrent dedans. C'est comme ça qu'ils vont se construire. Donc, il faut rêver pour eux.
Alors, le rêve, justement, je viens de citer le Talmud et l'obligation d'enseigner un métier, de transmettre des savoirs et des savoir-faire, et une éthique qui les accompagne. En hébreu, le mot métier, oumanout, avec une petite différence, un film de prononciation, un mini shibboleth, si l'on peut dire, signifie l'art, la dimension esthétique du monde et des choses. Oumanout, c'est peut-être justement le rêve dont vous venez de parler. Je sais que personnellement, vous y êtes très sensible, sensibilité qui transparaît aussi dans vos publications et dans vos choix intellectuels et vos choix de vie, justement. L'art, et là est ma question, a-t-il une place particulière à prendre en cette période de pandémie ?
Je dirais que l'art n'est pas sacré pour moi. Je ne dirais pas l'art comme une religion, etc. Mais il y a des œuvres, il y a des artistes. Là aussi, c'est du transfert, c'est-à-dire des artistes sur des transferts sur des œuvres. Et je pense que il y a des œuvres qui donnent image sur des mots qui nous manquent. Sur quand je dis sur des mots qui nous manquent, je pense à George Steiner qui disait que c'est aussi des mots à qui on a manqué. Il faisait référence à l'appauvrissement du langage et à la perversion du langage qui a amené et qui a accompagné la Shoah. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui, dans certaines œuvres, nous touche au vif, nous touche au mort. Et construisent une sorte de site là où le site n'était pas construit, là où il n'y avait pas de lieu psychique pour les brisures, pour certaines traces traumatiques, pour certaines traces existentielles très primitives qui nous viennent d'ailleurs éventuellement et souvent transgénérationnellement de ce qu'ont vécu nos parents ou l'un de nos parents, etc. L'art donne vue et construit un site pour quelque chose qui n'existait pas et qui va pouvoir produire éventuellement chez certains d'entre nous différemment la possibilité, une sorte de contenance pour des représentations, pour des formes de pensée, pour une forme de symbolisation de ces traces qui sont en nous et qui constituent une sorte de kyste étranger et inaccessible d'habitude pour nous. Donc l'art est nécessaire, mais certaines œuvres en particulier.
Alors j'ai l'impression que l'art est nécessaire pour vous, mais aussi un élément essentiel qui est l'humour. Dans le quatrième de couverture de votre nouvelle publication sur la transmission, vous avez rapporté cette phrase de Groucho Marx que vous avez déjà citée. Pourquoi ferais-je quelque chose pour les générations suivantes? Qu'ont-elles fait pour moi? C'est une phrase drôle et profonde. Quelle est la place de l'humour en général et peut-être en cette période de Covid en particulier, Micha Valkovits?
Je vais vous raconter une autre histoire pour répondre à l'histoire. Une autre histoire que m'a rapporté mon copain Jean-Pierre Winter il y a peu de temps et qui m'a profondément troublé et bouleversé. C'est Moïse et Yitzhak qui sont vieux, qui sont malades, qui vont mourir et qui meurent. Et qui se retrouvent au paradis, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils continuent à discuter, ils continuent à se raconter des histoires, ils continuent à partager des souvenirs, et ils le font évidemment très fort, avec des gestes, avec des paroles, etc., qui gênent un peu les autres, et les autres se plaignent auprès de Dieu, et Dieu, se propose comme médiateur, va voir Moshe et Yitzhak, et dit, mais qu'est-ce qui vous arrive de parler fort? Vous dérangez un peu les autres, qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? Et Moshe lui dit, bon, on se raconte des souvenirs. Bon, et des souvenirs qui vous font autant rire, d'aussi bruyamment. Et Moshe dit, oui, on se raconte des souvenirs d'Auschwitz. Ah bon, d'Auschwitz, et ça vous fait autant rire, dit Dieu. Et Yitzhak qui dit, tu peux pas comprendre, tu n'étais pas là. Je sais pas si on rit aux éclats ou pas, mais en tout cas, elle est très représentative de ce que peut être l'humour. C'est une pensée incidente, au fond. C'est pas quelque chose qu'on construit, on n'invente pas une histoire. C'est une pensée incidente. Et qui, au fond, est un travail de subjectivation, c'est-à-dire comment retrouver une place de sujet. On disait tout à l'heure, il y a le paradoxe du choix de la vie, c'est-à-dire des choses qui nous ont imposées, il y a ce surdéterminé, etc. Comment on va acquérir un libre arbitre? Eh bien, c'est ce travail de subjectivation par rapport à des situations, par rapport à des impasses existentielles, à des choses qu'on ne peut pas penser, qu'on ne peut pas, qui nous rendent impuissants, démunis. Et on va faire ce travail de sujet, de penser sujet, de conflictualiser la situation, de retrouver une dignité, de sortir d'une catégorie catégorie prismatique d'être, puisqu'on nous met dans une situation, on nous met où on se met soi-même. C'est ça notre névrose. On se met soi-même dans une sorte d'identité mortifiée, dans une sorte d'identité fixe. Alors évidemment, ceux qui ont été persécutés, déportés, l'ont été par les autres. Comment sortir, là, cette blague, c'est au fond, comment sortir d'une position victimaire et d'une identité victimaire, comme on doit aussi s'arracher à une position, qui est équivalent quelque part d'une position d'idole. Yankelevitch disait, l'humour, c'est ne pas remplacer une idole qu'on va détruire par une autre idole qu'on va être soi-même, ne pas s'incarner, comme le psychanalyste ne doit pas s'incarner dans le transfert, dans l'objet idéalisé du transfert. Et donc, comment transformer, au fond, et c'est le rôle de la cure, puisque vous parliez de psychanalyse aussi, mais c'est le rôle de l'humour et de l'art, comment transformer le mortifère, la compulsion de répétition, en force de vie.
Merci Micha Volkovitch pour cette passionnante conversation inaugurale de cette nouvelle saison 2020-2021. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé et qui sort ces jours-ci aux éditions InPress, La transmission en question, sous-titré en hommage à Michael Bartzfi et Raphaël Drey. C'est un ouvrage collectif réalisé sous votre direction avec de très nombreuses contributions. Je signale aussi le prochain séminaire de Chibolette, une table ronde qui aura lieu dimanche 13 septembre sur le thème Mémoire, transmission, création, art, psychanalyse, pensée juive, à l'occasion du vernissage de l'exposition d'Alain Kleinman, intitulée Mémoire. Et tout cela a lieu au Centre européen du judaïsme. Tous les détails sont sur le site de l'émission. Merci encore, Micha Volkovitz.
Merci à vous, Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la technique aujourd'hui, Claire Levasseur. Dany Journeau transmet ses chaleureuses salutations à tous les auditeurs après 7 années d'une collaboration amicale et joyeuse avec toute l'équipe de Talmudique et de nombreuses autres années à la réalisation d'autres émissions à Radio France. Dany Journeau prend une année sabbatique bien méritée. Nous la saluons, nous lui disons toute notre gratitude pour sa présence, son humour, sa fantaisie, sa curiosité intellectuelle, sa rigueur et son efficacité et son amitié. Dorénavant, c'est Alexandra Malka, à qui nous souhaitons la bienvenue dans l'équipe de Talmudique, qui nous accompagnera tous les dimanches de cette nouvelle saison 2020-2021. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.